Bonjour, c'est Nathalie David-Veil. Vous écoutez 4e de couverture sur Judaïka. J'invite un écrivain à parler de ses secrets, de ses rituels d'écriture, de ses sources d'inspiration comme de ses doutes pour découvrir les dessous de la création. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Virginie Bloch-Lenné pour Profil perdu, un livre qui vient de sortir aux éditions Stock. Bonjour Virginie.
Bonjour Nathalie David-Veil, bonjour.
Vous êtes critique littéraire, vous écrivez pour Libération des portraits, vous collaborez au magazine Elle, entre autres. Vous avez également produit des émissions pour France Culture. Et vous nous parlez aujourd'hui de votre livre « Profil perdu », qui est un livre sur votre père, essentiellement sur votre famille, sur la transmission, sur en réalité plus de sujets qu'il n'y paraît. Ma première question, c'est est-ce que vous écrivez sur votre père pour vous en souvenir et laisser une trace ou pour donner votre propre version ou encore parce qu'il vous manque et que vous aviez envie de ressusciter la vie que vous avez partagée avec lui?
Je crois un peu pour ces trois raisons, même si ressusciter le plaisir que j'avais à être avec lui, je n'y pensais pas au départ et c'est venu en cours d'écriture. Mais pour donner ma version, ça c'est vraiment, je pense, la bonne réponse pour moi, hein, subjectivement, parce que c'était un homme romanesque, assez menteur, et ma version n'est pas la vraie version, c'est ma version, mais il y avait de quoi faire, il y avait de la matière avec cet homme fantaisiste et oui, mais menteur, qui pouvait être colérique, extrêmement gentil, malgré des moments colériques, mais mystérieux, et il reste mystérieux, même maintenant que j'ai écrit le livre, que j'ai mis à plat tout ce qu'il était.
On va écouter le portrait que vous faites de votre père, qui est le début de votre livre, et ça sera lu par Thibaut de Montalembert. On va l'écouter.
Ton père ne critiquait jamais personne. Il trouvait plutôt des excuses aux gens. Marivonne égrène les qualités de Jean-Michel, mon père, décédé il y a 6 ans. Ils étaient amis. Elle et moi sommes installés à la terrasse d'un café situé en face de la boutique de farce et attrape où il se fournissait. Jean-Michel n'était pas magicien, mais inspecteur des finances. Entré et sorti deuxième de l'ENA au début des années 1960, fils et petit-fils d'inspecteur des finances. Mort après une décennie de cancers divers, il était attentif aux autres et mettait un point d'honneur à survoler leurs défauts, même les gros. Il visait plus haut, plus grave. Il était branché sur l'essentiel, la mort, pas moins. Il éprouvait de l'empathie pour la détresse des gens et pour les malheurs de toutes les origines. Amour, maladie, perte d'un enfant, pauvreté, grande laideur, handicap, solitude. D'un mouvement de la tête, il envoyait balader les erreurs et les fautes de ses contemporains. Elle ne pesait pas lourd face au coup du sort. Son crâne nu partait sur le côté, puis bougeait de bas en haut, tandis que ses belles et larges épaules se baladaient à droite, à gauche, chorégraphie qui évoquait l'allure d'un cheval. Ce qu'il mettait en valeur chez chacun, c'était le tragique de la condition humaine, la difficulté de vivre, la douleur, l'injustice. En dehors de ses souffrances, peu de choses avaient de sens pour lui. Dans la façon ridicule dont quelqu'un était accoutré, dans la prétention ou la timidité d'un individu, dans ses complexes, Jean-Michel repérait les coupables, le destin et l'inconvénient d'être né.
Merci Thibaut de Montalembert. Vous écrivez, c'est très intéressant parce que comme vous dites, c'est un personnage extraordinairement complexe, à la fois très sérieux, qui aime les blagues, et vous racontez tous les différents moments que vous avez partagés avec lui. Vous vous interrogez de votre lien, vous dites que vous êtes séparés en 81, que votre relation avec lui a été variée, vous tentez de comprendre toutes les facettes. Nos conversations sont devenues brèves et sans profondeur. Vous ne vous faites pas de cadeaux non plus. Et vous lui ressemblez. Votre sœur vous dit « c'est incroyable ce que tu ressembles à papa ». Et ce qui m'a frappé aussi, c'est que lui est une famille de 4 garçons et vous êtes une famille, oui, de 4 sœurs. Et il y a réellement un lien entre ces deux. Vous êtes la petite dernière. Et lui aussi, ou je ne sais plus où il est dans la fratrie.
Non, lui, il était l'aîné.
Il était l'aîné.
Et il avait une place particulière parce que c'est celui qui a fait, qui a suivi le chemin de son père et de son grand-père. Il est devenu inspecteur des finances comme eux, alors que les autres, les frères, deux de ses frères ont des métiers artistiques et un est médecin. Et il était fait, je pense, pour avoir quatre filles. Enfin, ça me semble aller de soi. C'était vraiment un père à filles.
Vous vous interrogez si on est justement plus l'enfant de sa mère ou plus l'enfant de son père, avec Philippe Roth dans Patrimoine qui pose la question.
Oui.
Peut-on décider de négliger un héritage, se défaire d'un mimétisme, de ressemblance physique, de repousser des traits de caractère? Je vous cite. Avez-vous répondu à cette question parce que vous parlez de votre mère, belle comme Sophia Loren, qui avait 13 ans de moins que votre père, mais en même temps, vous vous identifiez plus à votre père?
Oui, je pense parce qu'il était, il avait peut-être davantage envie de transmettre ce qu'il était que ma mère, et parfois il avait même des gros sabots dans cette transmission. Il a donc ma mère est juive, lui, malgré ce nom de famille, n'était pas juif puisque la famille Bloch l'aîné s'est convertie, les Bloch se sont mariés avec des l'aîné, et avant même l'affaire Dreyfus, ils étaient convertis au catholicisme, et il a voulu, alors qu'avec ma mère, ils avaient décidé qu'ils ne donneraient pas d'éducation religieuse, il m'a fait baptiser lorsque j'ai eu 6 ans. Donc, il voulait ramener de son côté.
Et vous êtes la seule baptisée ou vous êtes toutes baptisées?
Alors, je suis la seule juive, je suis la seule à avoir une mère juive, puisque mes sœurs ne sont pas de la même, n'ont pas la même mère que moi, et leur mère était catholique, et elles ont elles aussi été baptisées, mais moi je suis la seule à être.
Vous posez une question très intéressante, page 118, comment faire face à la question de ne pas être juif, puisqu'en effet, vous ne l'êtes pas, mais en même temps, vous avez un nom qui prête à confusion. Votre mère l'est, François Bloch l'aîné n'était pas juif aux yeux de Vichy, mais le père de François n'était pas complètement français puisque sa mère était juive. C'est d'une complexité très intéressante.
Oui, alors moi, je n'ai pas fait ce choix-là, puisque je me suis inscrite dans la filiation de ma mère et de ma famille maternelle, puisque c'était important du côté de ma mère de me dire que j'étais juive. En revanche, j'ai remarqué ça c'est empirique, ce n'est pas scientifique, je ne suis pas historienne, dans d'autres familles de juifs convertis depuis longtemps au catholicisme, il peut y avoir un effacement, je trouve, de ces origines-là, parce que ce sont des familles qui ont voulu s'assimiler à un moment où l'assimilation était très forte, s'assimiler par des prénoms. Dans le cas de ma famille, ça a été fait aussi par l'entrée dans la haute fonction publique. Donc, c'était ce que Pierre Birnbaum appelle les fous de la République, et ils s'identifiaient tellement à la France.
Ils étaient français avant tout, oui.
Ils étaient français avant tout, plus que juifs, oui.
On va écouter, Virginie Bloch l'aîné, votre premier choix musical, Prince des villes de Michel Berger.
Briller comme une étoile filante, c'est l'aventure qu'il est temps. Et puis cet étrange pouvoir qui s'est glissé dans le regard. Vivre plus vite que les autres, avoir un pied dans le futur, vivre les rêves qui sont les nôtres et obéir à sa nature, puisque rien ne dure vraiment. et les princes Lévi n'ont pas besoin d'armure dans les grandes voitures. Les rêves sont faciles et leurs nuits de vinyle sont collées sur les murs. Mais rien n'est vraiment sûr et l'avenir fragile pour les princes de l'île. Des idées bizarres vibrent au rythme des guitares, des rock and roll stars. Adore qu'on les jalouse comme des maîtresses en la louse, qu'on leur élève des statues, qu'on les affiche dans les rues. Mais au matin d'un nouveau jour, qu'on les piétine, qu'on les insulte, qu'on établisse de nouveaux cultes et qu'on les oublie pour toujours, puisque rien ne dure vraiment. Mais les princes Lévi n'ont pas besoin d'armure dans les grandes voitures.
Virginie Bloch-Lenay, vous nous parlez de Profil perdu aux éditions Stock. Vous parlez du rôle de la fiction. Avec votre père, je vous cite, « Il regardait les êtres et les enluminait, il les faisait entrer dans sa galerie. Jean-Michel tenait un catalogue des mille et une façons de vivre et de supporter l'existence. » Et plus loin, vous écrivez, « Il inventait des histoires du soir et des histoires tout court. Il possédait un don pour organiser des drames qui compliquaient l'existence à ses côtés. » À travers ses portraits, il était un écrivain. Est-ce que c'est votre cas, vous qui écrivez des portraits? Vous dites « Mon métier consiste à rédiger des historiettes et à écouter les autres, me dérouler leurs aventures et leurs mésaventures. J'écris des portraits, mais il m'arrive de lire les êtres de travers. Est-ce qu'il est difficile d'écrire sur soi après avoir disséqué les autres ?»
Oui, mais c'est utile parce que je pense qu'on dissèque après autrement les autres. Oui, le portrait, en tout cas tel que je le pratique à Libération, est vraiment subjectif. C'est un exercice subjectif et à Libération, cette subjectivité est encouragée. Et évidemment qu'on invente, enfin évidemment, en tout cas pour moi, que tout en voulant être honnête, la personne que l'on a en face de soi provoque des réactions et on va lire des choses plutôt que d'autres. On va lire une sympathie plutôt qu'une petite arrogance. Voilà. On fait un choix en fonction de l'effet que fait la personne qu'on a en face de soi. Et les portraits, ce sont des micro-fictions. Oui, on raconte une histoire et on l'invente en partie. On essaye de pas trop l'inventer, mais...
Oui, alors vous le faites absolument dans votre livre, puisqu'il y a une galerie de portraits, il y a un historien mélancolique, il y a le père de votre enfant Jean, il y a l'urgentiste Kamel, il y a l'oncle médecin anticonformiste, il y a le réanimateur Murat, je vous cite le mur porteur, la personne ressource Monsieur Plus, j'aimais bien. En quelques mots, vous avez pu justement brosser son portrait, et c'est ce que vous faites très bien dans vos portraits. Elle qui vous plaît et qui sourit trop, à chaque fois, vous, effectivement, il y a comme la touche de couleur qui va différencier oui. La personne. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit de leur portrait? Puisque vous en parlez à Murat, hein, vous dites oui. « Fais attention, tu vas paraître dans mon livre ».
Alors, pour commencer, je dois dire que si je fais des portraits, c'est vraiment grâce à mon père, parce qu'il était lui un très bon observateur des gens. plutôt très sympathique, plutôt très empathique, parce que il voyait la faiblesse chez les autres. C'est-à-dire que même derrière une arrogance, il voyait l'enfant chez tout le monde, l'enfant malheureux qu'il imaginait malheureux, parce que ça, c'était une fiction qu'il aimait bien se raconter aussi. Alors, les personnes dont j'ai écrit le portrait sont plutôt contentes.
Tant mieux.
Même elles, oui, tant mieux. Ce sont des hommes qui existent, dont je ne donne pas toujours les vrais noms. Et j'ai même été étonnée qu'ils soient à ce point-là contents, parce qu'en écrivant des portraits pour la presse, je sais que même lorsqu'un portrait est sympathique, c'est difficile pour celui que l'on dépeint de se lire et de se voir regarder.
Comme une photo.
Et même lorsque... Oui. Oui, et souvent je suis étonnée qu'il ne soit pas très très content lorsque j'écris un portrait très laudatif. C'est gênant. Je comprends très bien. C'est une intrusion. C'est une intrusion chez l'autre.
Donc vous faites ce portrait des autres hommes de votre vie.
Oui.
Jamais à la hauteur, jamais tout à fait le bon et en même temps difficile de comparer. Vous dites « je préfère me débrouiller mal mais seule, je suis nulle en homme ». J'ai bien aimé cette formule, même si je les aime, que vous rajoutez. Mais,
oui, c'était un peu une boutade.
Oui, c'est un peu une boutade parce que ce n'est pas vrai d'après ce que vous racontez. Mais...
Oui. C'est pas vrai, et c'est un peu vrai quand même, puisque mais je pense que j'appartiens à une famille où l'on a beaucoup divorcé, moi j'ai divorcé. Je pense que j'appartiens à une génération aussi où la liberté est un peu déboussole, un peu. Donc c'est une boutade et pas complètement une boutade non plus. Jamais à la hauteur, c'est aussi c'est ironique. Aussi, c'est peut-être moi qui ne suis pas à la hauteur.
Je pensais jamais à la hauteur de votre père. C'est comme ça que je l'ai lu.
Oui,
quand
oui,
même.
Exactement. Oui, oui, jamais. Alors que c'est. Il faudrait pas que je pense comme ça, mais je pense un peu comme ça, même si j'ai exagéré le trait pour le livre, je pense.
Oui, et alors vous parlez vous citez énormément de livres, notamment sur le lien avec le père. En premier lieu, on en a parlé, Patrimoine de Philip Roth,
oui.
Avec cette transmission, cette importance du père. Il y a aussi Émotion de Jean-Philippe Toussaint, où le père du narrateur meurt. Finkielkraut, Emmanuel Carrère, Sigrid Nunez, l'ami américain, Antoine Compagnon, Proust, Freud. On a le sentiment que chaque épisode de votre vie est ponctuée par un livre. Est-ce que c'est pour votre livre? Comment vous avez pu sélectionner parmi toute la quantité immense de livres que vous avez lus? Pourquoi, quelle était la source de cette sélection pour ce livre-là?
Alors, elle est venue au fil de la plume. C'est plutôt que lorsque je lis, je pense à ma vie ou à des gens qui m'entourent. Philip Roth, ça s'est imposé parce que Patrimoine est l'un de mes livres préférés. Je trouve que c'est un livre qui parle, qui est exemplaire dans la façon dont il présente le rapport entre un fils adulte, d'âge mûr, et son père, parce que Philip Roth est en train, c'est un récit, c'est pas un roman, il perd son père qui a une tumeur au cerveau, il sait que son père n'en a plus pour très longtemps, et il est à la fois celui qui prend soin de son père, et encore le fils respectueux, et le fils qui a besoin de son père, et c'est exemplaire à plus d'un titre, parce que je pense qu'on n'est pas tous capables, ça dépend aussi du rapport que l'on a eu avec son père, de la façon dont le père s'est comporté, est-ce qu'il s'est comporté en adulte ou pas, c'est-à-dire est-ce qu'il y avait vraiment, et je pense qu'il y avait ça dans la famille de Philip Roth, et là dans le cas de Philip Roth et de son père ça marche, il prend soin de lui, et néanmoins tout au long du livre il se souvient de ce que son père lui a appris, c'est-à-dire toujours se souvenir du rapport hiérarchique qui existe entre les parents et les enfants.
Vous écrivez, vous parlez de l'attachement à la souffrance, vous écrivez la vie psychique et conservatrice. Nous revenons là où nous avons mal. Vous citez d'ailleurs une psychanalyste. Est-ce que vous croyez à ça?
Oui. Je crois, oui, cette psychanalyste, c'est Catherine Chabert. Je l'avais interrogée pour France Culture et pour un documentaire qui avait duré 4 heures sur la psychanalyse. Et elle avait dit, alors que même je l'interrogeais plus, elle parlait, je lui posais pas de questions précises, et elle s'est arrêtée, et les yeux dans le vague, elle a dit, enfin les yeux dans le vague, mais en réfléchissant et sans me regarder, elle a dit, mais en fait, la question, vraiment importante, le problème, c'est le masochisme. C'est-à-dire qu'on se fait mal pour pas grand-chose. Et elle dit, ça, c'est ce que je retrouve tous les jours chez mes patients. Pour elle, c'est le problème universel.
Est-ce que ce livre vous a fait du bien? C'était ça la question aussi.
Oui, je ne sais pas si c'est l'écriture qui a fait du bien, mais c'est le fait d'avoir accompli, d'un effort accompli, le fait d'avoir créé un espace qui était à moi. À chaque fois que je prenais mon ordinateur pour écrire, j'écrivais quelque chose qui était à moi et non pas, je n'écrivais pas, même si j'écrivais sur les autres, je n'écrivais pas sur le livre des autres, comme j'ai l'habitude de le faire pour mon travail. Et c'était comme, oui, une maison dans laquelle je rentrais et qui m'accueillait, je construisais quelque chose. Donc oui, c'était très agréable. C'est une grande liberté.
Donc Virginie Bloch-Lenay, ça vous a donné envie de continuer à écrire des livres.
Oui, d'aller, voilà, d'écrire plus que des articles et oui.
On va écouter L'Addition chantée par Yves Montand.
Des jours heureux, une colombe, des soirs qui tombent, un regard bleu, plus un sanglot, plus un violon. La vie est tout ce temps cassé que l'on appelle le passé. Plus l'avenir en dit le son de nos prophètes bénévoles. Plus une bombe sur une école. Et les oiseaux qui chantent après, l'avion ne l'a pas fait exprès. Plus les amis dans la maison, moins ceux qui pour toujours s'en vont. Les enfants sont déjà devant, ôtés de moi, ôtés de nous. Il ne nous reste pas beaucoup. Plus des combats, le cœur qui bat, les défaites, souvent secrètes, et tous les doutes. On redoute, mais quand on a perdu le nôtre, il y a encore l'espoir des autres. Multipliés par les idées, divisés par tous les mots d'ordre, certains finissent par confondre, certains ne peuvent pas répondre. Bouche sans cri au bout d'une corde. Et plus la pluie et le beau temps et l'herbe qui pousse entre-temps, plus tous les désobéissants qui ne veulent plus se mettre en rang, les enfants sont déjà devant. Moins ceux qui sont encore à naître, plus l'inconnu dans la fenêtre, et plus l'amour de quelques-uns est plus ou moins. De quelques-unes, je pose tout, je retiens une. Égal, égal un homme en équilibre, sur trois verres de Prévert, mais ce sont des verres libres.
Profil perdu aux éditions Stock. Vous écrivez « Nos souvenirs en disent plus long sur le présent que sur le passé ». Vous citez une romancière chinoise. Et en fait, j'ai trouvé que votre livre était totalement nostalgique. D'ailleurs, vous le dites, hein, je ne l'ai pas inventé, parce que sur les lieux familiers, pardon, en particulier Saint-Jean-de-Luz, vous parlez de nostalgie. Votre sœur vous dit qu'elle ne voyait pas votre père aussi triste que vous. Il y a une certaine nostalgie, non?
Alors oui, je crois que alors c'est pas tant Saint-Jean-de-Luz qui était le lieu de la maison familiale et un lieu auquel mon père était très attaché. Je parle de nostalgie lorsque j'évoque le père de mon fils que j'ai rencontré très jeune. J'avais 15 ans. Nous avions 15 ans et à cet âge-là, l'amour est intense. On croit en beaucoup de choses. On fait des et voilà. On s'imagine que tout est possible, que tout est ouvert. Et c'est un âge essentiel. Et donc j'ai noué avec lui des liens forts. Et nous avons un fils que nous adorons. Donc c'est la nostalgie. Elle est liée à cet homme-là, aux années que j'ai passées avec lui, qui sont des années très marquantes, celles de l'adolescence et celles de la jeune adulte que j'ai été. Et après, je pense qu'on a plus de recul. Les choses se vivent intensément. Je sais pas, jusqu'à 25 ans, je dirais à peu près.
Voilà. Vous dédicacez votre livre Profil perdu à votre fils. Est-ce qu'il l'a lu ?
Il ne l'a pas lu et il était pressé d'avoir un exemplaire pour lui, dédicacé, mais cet exemplaire est resté, reste sur sa table de nuit et il ne l'a pas lu et ça ne me déplaît pas qu'il ne le lise pas. Il le lira peut-être plus tard, c'est un livre intime et sans doute n'a-t-il pas envie d'entrer dans cette intimité-là.
Vous parlez de la lecture de votre livre avant publication, la recherche d'un titre, une amie vous suggère de faire une liste. Est-ce que, d'ailleurs c'est un joli titre, Profil perdu, est-ce que ça a été compliqué du coup de trouver ce titre ?
Oui, ça a été compliqué et ce n'est pas moi qui l'ai trouvé, c'est un ami. Il y a beaucoup d'amis dans ce livre parce que les amis sont comme un cœur, comme ça, à l'arrière. Et ils sont parfois même des parents de substitution, les amis. Ça a été compliqué et c'est un ami qui l'a trouvé en allant à une exposition de dessins de Degas. Et un profil perdu en peinture, c'est un profil qui est de trois quarts, dont on n'a pas tout, il reste des ombres. Et le premier titre, donc je trouvais que ça correspondait à la façon dont je dépeins ces personnes, parce que je les dépeins de façon subjective, donc je rate sûrement des éléments, des ingrédients au passage. Le premier titre de travail, c'était « Mes portraits », que j'aimais bien parce que c'était à la fois le portrait de ceux qui sont dans le livre et à travers eux un autoportrait, mais Profil perdu, c'était mieux.
Oui. Est-ce que, Virginie Bloch-Lenné, vous avez un mot de conclusion ?
Et non, non, si c'était que le plaisir. Enfin, voilà, je n'imaginais pas, alors que j'écris toute la journée des articles, à quel point l'écriture d'un livre donne de la liberté. Parce qu'on crée vraiment quelque chose entièrement. On ne commente plus, on crée quelque chose à soi.
Merci beaucoup. J'attends le deuxième avec impatience. Merci,
merci
Virginie Bloch-Lenné. Cette émission sera rediffusée dimanche à 14h. Vous pouvez la réécouter sur vos podcasts et sur le site de Radio Judaïka. Je vous retrouve mardi prochain à 11h. À la semaine prochaine.